Vous écoutez
RMC.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Nous voilà de retour, c'est RMC, c'est le week-end des experts et évidemment je suis très heureux de vous accompagner en ce samedi matin. Notez que demain dimanche 6-7 vous retrouverez De quoi je me mêle et puis de 7h à 10h 3h d'automobile. Jean-Luc Moreau sera là fidèle au poste. Tout à l'heure Raphaël Grably, la vie numérique entre 9h et 10h. Mais dans les médias, Christian Recchia est dans ce studio. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le vrai bonheur pour ces retrouvailles hebdomadaires. Je suis très en forme. François, j'ai l'impression dire, est rose comme s'il sortait de la plage.
C'est vrai.
Vous avez fait des efforts ce matin, vous avez nagé.
Oui, j'ai
vous
nagé.
Vous êtes allé à Ajaccio pour nager.
J'ai nagé dans la Seine.
Oui, c'est pour ça que je suis rose. Mon ami Philippe Riera m'a dit qu'il vous a vu ce matin nager au large d'Ajaccio.
Oui, c'est ça. J'aurais été très rapide quand même pour arriver jusqu'ici. Tout à l'heure, on va parler du pain, Christian. C'est pour ça que je vais un peu vous mener à la baguette.
J'ai l'impression que vous vous laissez un peu aller. C'est en hommage à mon papa. En hommage à mon papa boulanger. Et puis, c'est surtout en hommage à tous les boulangers de France, à mes amis, ma foi, qui sont boulangers et qui se lèvent à 2h du matin ou qui travaillent 15h par jour pour tenir une boulangerie en bon état et en bon ordre.
Avec deux thèmes, comment bien choisir son pain.
Oui.
Et notre invité Franck Debieux. Et puis aussi, quel type de farine pour un pain de qualité.
Parce que c'est
le plus important, la farine.
C'est le plus important. Quand vous mangez du pain, vous mangez du blé pur avec de l'eau. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et la farine, c'est une toute petite proportion du prix du pain. Et la farine, c'est du blé. Et du blé, c'est de l'agriculture. Et là, je rends hommage à Madame Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Et je rends hommage à tous les agriculteurs de France qui, aujourd'hui, font des céréales. Et je dirais, s'évertuent à faire des céréales de très grande qualité pour nous faire, entre autres, du pain. Et nous allons avoir un très grand meunier, Madame Forest, qui va nous expliquer les bases de comment fait-on une très bonne farine pour les boulangers artisanaux de France.
Et puis vous nous direz quel type de pain faut-il privilégier.
Absolument.
Évidemment, Christian. Et vous avez des questions sur le pain? Dès maintenant, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, n'hésitez pas. Et pour débuter, eh bien c'est l'ordonnance du docteur.
Et quoi de neuf, docteur ?
RMC.
Mangez sain, mangez frais,
mangez les pommes !
J'ai besoin de vitamines, moi.
L'ordonnance de Christian Recchia.
Et oui, c'est vrai que là, on rentre quand même dans le dur. Hein. L'hiver arrive, Christian. Alors, si on a une alimentation équilibrée, on n'a pas besoin de vitamines, c'est ce que vous nous dites régulièrement. Mais malgré tout, pour certains, et peut-être à certaines périodes de l'année, un petit complément, c'est pas de refus.
Et surtout, dans cette période très particulière, et c'est presque une période historique, cela fait une bonne dizaine de fois que je réalise ce thème. Et là, le thème est plus prégnant qu'autrefois parce que nous avons vraiment besoin de penser à tout ce que vous apprend Patrick Mulan depuis deux décennies. Et j'aimerais faire la transition pardonnez-moi, mesdames et messieurs, on en entend parler toute la semaine, mais par rapport à cette pathologie, la Covid. C'est que nous avons constaté que lorsque nous avons une concentration en vitamine D, suffisante, eh bien l'immunité est de bonne qualité et nous avons moins de risques de subir un contage au Covid.
Ah oui.
Et c'est pour cela que nous avons proposé François ce thème, parce qu'évidemment la vitamine D, on en parle tout le temps, parce que nous savons aujourd'hui que les personnes qui sont beaucoup moins exposées au soleil, même en habitant la Corse, même en habitant Toulon, même en habitant, je dirais, les tropiques, eh bien parce que nous devenons sédentaire, parce que nous sommes cachés dans un appartement, parce que nous sortons moins, parce que nous avons moins la propension à vivre dehors, eh bien nous avons une carence en vitamine D. Et cette carence en vitamine D provoque une moins bonne réparation tissulaire osseuse, car la vitamine D permet finalement de restructurer la construction de l'os, c'est quand même très important, de protéger la peau, de protéger le tube digestif contre des néoplasies et des dégénérescences. Et on a constaté en même temps que la vitamine D aidait à la restructuration des lymphocytes et de la capacité des lymphocytes à structurer une bonne immunité sans avoir une exacerbation de la fonction inflammatoire. Donc ça, c'est très important. Et donc, je dirais que finalement, mesdames et messieurs, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vous, adultes, hommes de plus de 50 ans, la vitamine D, à raison de 10 gouttes par jour ou d'une ampoule de 300 000 unités tous les trimestres, ça va très bien. Mais on peut trouver de la vitamine D dans l'alimentation. La vitamine D dans l'alimentation, on le trouve dans les poissons gras. Saumon, maquereau, sardine, hareng. Alors évidemment, pour ceux qui n'aiment pas le poisson, eh bien, je vous propose quand même des gouttes. Mais et en plus, je dirais qu'il ne faut pas l'oublier. Je suis désolé de vous dire que la vitamine D, votre médecin généraliste peut la doser et que très fréquemment, nous constatons que même quand vous en prenez régulièrement, vous avez des carences de vitamine D.
Les carences, c'est quoi justement? Si on manque de vitamine D, c'est quoi?
C'est-à-dire des lésions osseuses, notamment pour les enfants qui sont en pleine croissance. Je regrette que finalement, il y a de moins en moins de médecins scolaires. À l'époque, dans les années 70-80, il y avait des médecins scolaires qui voyaient en consultation chaque élève, médecin scolaire et infirmière scolaire. Aujourd'hui, les ministres sont devenus des gueux qui ne se sont même pas rendus compte de la disparition de ces médecins scolaires et de ces infirmières scolaires. Et nous avons donc des scolioses, nous avons des fractures de fatigue et nous avons plus du tout ces messages que je viens de vous indiquer qui passaient auprès des parents tous les ans. Et avec tout le respect que j'ai pour la République et pour les ministres, je dirais que ce sont des messages très simples à passer. Autre ordre capital, c'est que nous constatons que quand les personnes âgées, les hommes de plus de 50 ans manquent de vitamine D, le cancer de la prostate augmente considérablement. Et ça, c'est un fait majeur parce que sur le plan immunitaire, on a des problèmes. Donc, c'est pas anodin, c'est pas seulement sur l'os, c'est aussi sur toute la fonction tissulaire.
Donc, on récapitule, vitamine D, de temps en temps, un petit apport en vitamine, comme
c'est,
ça.
C'est surtout entre le mois de novembre et le mois d'avril,
oui, où il y a moins de lumière.
Par jour, où il y a moins de lumière. Et alors, quand le mois de mai arrive avec de la lumière, avec du soleil, et quand vous avez la chance de vous offrir des vacances au soleil, effectivement, c'est un bain de vitamine D remarquable. Mais aujourd'hui, tous ceux qui vivent en France, en période hivernale, vitamine D tous les jours, de toute façon, les surdosages sont très peu nocifs. Mais quand même, soyez prudents, messieurs, mesdames, les généralistes, doser la vitamine D de vos patients, ça permettra de faire de la prévention et être efficace pour la santé publique.
Oui, parce qu'après, ça ne sert à rien de se goinfrer.
Voilà,
la vitamine D,
voilà,
bien
absolument.
Sûr. Patricia est avec nous au 32-16. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour.
Bonjour Patricia.
De Haute-Garonne, Patricia.
Oui.
On vous écoute.
Alors, moi, j'ai une question à poser. Ça concerne en fait j'ai une perte osseuse très significative.
Oui.
Donc un problème d'ostéoporose qui se tend à se majorer.
Oui.
En 2 ans, j'ai perdu plus de 8% en perte osseuse.
D'accord.
Et donc, en fait, c'est plutôt sur les vertèbres.
Oui.
Donc j'ai un T-score à moins 3,7.
Oui.
Et sur fémoral, j'ai des T-scores à moins 2,7 sur le côté droit et moins 2,2 côté gauche.
Et quelle était votre question, Patricia?
Alors, ma question, en fait, c'est par rapport au traitement. Voilà. Donc, au niveau du traitement, donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai entendu tout à l'heure, concernant notamment la vitamine D, puisque on me propose un traitement en vitamine D.
Très bien.
Et du calcium également, du calcite vitamine D3. Donc, je voulais savoir, j'ai entendu parler que le calcium pouvait calcifier les artères. Donc, est-ce que c'est vrai ou
alors,
pas?
Alors, vous êtes sur un débat très important et madame, vous venez de présenter un tableau très précis qui constitue, je dirais, un tableau pour quasiment 30% de la population d'un certain âge. Cela veut dire que, d'abord, la vitamine D, je le répète, est une thérapeutique capitale pour pouvoir fixer le calcium. Ensuite, du calcium, il n'est pas nécessaire d'en avoir en comprimé effervescent dans de l'eau tous les matins. Le calcium, vous pouvez le prendre en mangeant du fromage, en mangeant, en buvant de l'eau calcique, comme par exemple la Contrex, hein, sans faire aucunement...
D'accord, il y a des eaux qui ont plus de calcium que d'autres.
De calcium, et puis minérales. En bougeant, parce que l'activité physique permet de mieux fixer le calcium. Donc en étant sédentaire, en ayant de la vitamine D et en mangeant du calcium, c'est là que que le calcium que vous prenez n'aura pas la capacité de se fixer sur les os, mais pouvoir en surcharge se fixer sur les artères. Donc au fond, il faut rajouter de ces éléments-là, et surtout pour éviter la surcharge du calcium au niveau artériel, il faut surveiller le patient régulièrement. Ça, c'est le travail du médecin généraliste au quotidien, mais ce que vous venez de présenter, madame, est important. Donc il faut bouger, il faut manger, il faut boire de l'eau calcique, il faut manger du fromage, il faut prendre de la vitamine D, et avec ça, vous serez préservé au mieux.
Un mot sur la vitamine C. C'est vrai qu'on dit aussi souvent en ce moment, voilà, à l'approche de l'hiver, etc., cure de vitamine C.
Alors,
est-ce que c'est complémentaire avec la vitamine D, et est-ce que finalement l'association des deux est bienfaisante?
Le vrai souci de l'hiver, alors nous ne sommes pas en 1940, hein, où là il y avait des carences en vitamines multiples majeures. Nous avons quand même la chance, malgré nos soucis actuels, d'avoir une population assez bien nourrie. Mais la vitamine C, vous avez raison, François, c'est une vitamine pour la peau. C'est une vitamine de l'hiver. Et paradoxalement, cette vitamine C se retrouve dans les agrumes. Et à raison de 2 oranges par jour, c'est-à-dire 90 mg de vitamine C par jour, vous avez 100% des besoins qui sont, je dirais, assumés. Alors quand vous prenez un comprimé de 500 mg de vitamine C, évidemment, il y a une surcharge en vitamine C que vous prenez. Alors la vitamine C, c'est très important.
Qu'est-ce qui se passe de cette surcharge?
C'est le rein. C'est le rein qui se permet, encore une fois, d'assumer le choc vos excès.
Il y en a beaucoup trop.
Alors, ça acidifie la fonction rénale, ça acidifie l'eau, ça permet, je dirais, d'éliminer quelques bactéries, mais pas tous les jours, il faudrait pas quand même faire ça tous les jours. Donc quand vous prenez la vitamine C, c'est maximum 250 mg ou 2 oranges ou 3 clémentines, vous voyez, ça suffit. Il est pas nécessaire de se surcharger. En revanche, et là je pense à Patrick Mulan, c'est que quand vous prenez des légumes, quand vous prenez des fruits, il y a toujours un petit peu de vitamine C dedans, la vitamine B, et donc c'est une bonne complémentarité. Et je reprends l'excellent travail qu'a fait Valérie Villemot, c'est que quand vous pressez une orange, l'orange est pressée. En l'espace d'une minute, la vitamine C disparaît à cause de la lumière. Donc quand vous demandez dans un hôtel un jus d'orange pressé, comme je l'ai dit déjà 10 fois dans cette émission, vous demandez un jus d'orange pressé minute devant vous et vous le buvez tout de suite pour être efficace.
Oui, parce que autrement ça sert à rien. Vitamine C s'évapore.
Si c'est pressé à 6h du matin et qu'on vous le sert frais de bonne qualité à 18h, il n'y a plus rien dedans, c'est un jus d'orange où il n'y a plus rien sinon un goût d'orange.
Oui, c'est pas terrible.
Voilà, et à 8 euros, ça fait un peu cher les 2 oranges.
Vous parlez de la peau, mais est-ce que la vitamine C a d'autres propriétés?
Oui, une fonction immunitaire.
Voilà, on dit que
c'est un stimulant immunitaire.
D'accord.
Quand vous voulez vous préserver la peau, mesdames, le meilleur des maquillages, plutôt que ces bêtises de crème que vous vous mettez à 600 euros par mois sur la peau, eh bien, vous prenez de la vitamine C. C'est tout simplement.
600 euros.
Oui, j'exagère à peine. Je voulais simplement préciser que finalement, la vitamine C est un protecteur contre les rides et améliore considérablement la tenue et l'élasticité du contenu cutané. C'est tout à fait remarquable. Ça, il faut le savoir.
Très bien, mais ça ne protège pas, on va dire, ça renforce pas les défenses immunitaires, des choses comme ça.
Ça renforce de 20% les défenses immunitaires, et c'est pour ça qu'en hiver, on vous dit toujours prenez de la vitamine C.
Oui, c'est ça.
Prenez vitamine B, vitamine C, les vitamines d'une façon générale, donc il faut manger du frais, et ça veut dire qu'il ne faut pas trop cuire les aliments, parce qu'évidemment, quand vous prenez des produits cuits à la vapeur, il y a 99% de la vitamine C qui est préservée, et vitamine B, la B6, la plus fragile des vitamines. Et quand vous lavez le tout, quand vous cuisez le tout dans de l'eau profonde, mais vous perdez tout, donc vous achetez des produits et vous ne mangez plus rien. Donc c'est aussi un point important, savoir cuisiner pour préserver les vitamines.
Christian Lepin dans un instant.
Oh,
il arrive.
Magnifique, avec deux exceptions dans ce métier.
Voilà, on va parler
un
de farine.
Producteur de farine et un grand boulanger.
Très bien. Et vous avez des questions sur le pain, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. C'est le week-end des experts. C'est la forme avec Christian Aikia. Tout de suite.
RMC.
Le week-end des experts. RMC.
Tout ça pour un morceau de pain.
8h-9h.
Tu veux du pain?
Comment? Je te demande si tu veux du pain.
Votre forme.
Et vous partagez le pain, hein?
Et il est beau ce pain. On dirait celui des anciens.
François Sorel.
Venez, on a besoin de vous.
Je peux pas, je surveille le stock de pain.
Ah, oui, en fait, c'est pas de la baguette, hein. C'est moi qui l'ai fait. Bah, félicitations, elles sont bien rondes, vos miches.
Christian Vecchia.
Il est 5h, il va se lever, le boulanger du quartier.
Ah, le pain chaud.
Eh oui, le café le matin avec un pain chaud et sur ce pain
cette
chaud,
baguette croustillante,
un bon beurre de Normandie pour mon ami. Olivier Rachinel. Alors,
moi, nous avons marre là parce qu'en studio on a que des biscuits là.
Oui.
Il faudrait des bonnes baguettes.
Nous avons le très grand honneur d'avoir une grande dame, Karine Forest, oui, qui aujourd'hui organise les meilleures farines de France pour les boulangers traditionnels de France. Madame, nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés. Et la discussion que nous avons eue démontre que nous regrettons ensemble la même chose, c'est que finalement, nous achetons du pain tous les matins, mais tous les acheteurs de pain, tous les consommateurs de pain oublient que la farine est un élément clé de ce pain. Et nous venons vers vous ce matin, madame, humblement, pour savoir comment réalise-t-on une farine pour fabriquer du pain. Nous allons avoir tout à l'heure le très grand Franck Debieux à nos côtés, qui pourra converser avec vous, madame, et avec nous. Et l'objet, madame, c'est de se dire, comment faites-vous une farine? Vous existez depuis combien de temps dans votre entreprise?
Alors, on a un petit peu, on a une grande date, puisque l'année prochaine, on va fêter nos 100 bougies. Donc, ça va faire 100 ans que nous sommes meuniers.
Bien, bien, bien.
Voilà.
Et donc,
est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un meunier?
Oui, dites-nous, madame, dites-nous. On ne sait pas, nous, on ne sait pas.
Ah, vous ne savez pas. Non. Alors, un meunier, c'est un fabricant de farine. On achète du blé, on le transforme pour à peu près 80% en farine pour la panification et 20% en issue pour l'alimentation animale.
Oui, c'est-à-dire que les restes, en fait, des céréales sont après recyclés pour donner de la nourriture aux animaux.
Rien n'est perdu, l'humain a réussi à préserver tous les éléments de la production.
Et alors, oui, tout est transformé.
Et donc au fond, une farine, y a-t-il un grand nombre de variétés de blé dans une farine? Comment ça fonctionne? Comment faites-vous?
Alors ça, c'est tout le savoir-faire du meunier, justement. L'objectif, nous, notre métier à nous, consiste d'abord à créer une relation toute particulière avec le monde agricole, avec les agriculteurs, avec les OS, les organismes stockeurs, pour pouvoir identifier différents mélanges de blé, différentes variétés de blé qui vont apporter des caractéristiques particulières à la farine. Donc notre métier, c'est vraiment d'aller chercher les meilleures variétés de blé qui vont apporter la qualité qu'on cherche, qu'on souhaite, que l'artisan boulanger recherche, pour pouvoir lui apporter une farine de qualité.
Comme un grand vin, vous faites les mélanges afin que ces farines, d'année en année, puissent avoir les mêmes qualités. Et pour avoir travaillé sur les blés et les farines depuis une trentaine d'années, madame, je constate qu'il y a des variétés de blé qui, depuis 30 ans, aujourd'hui n'existent quasiment plus, parce que finalement, le métier que vous représentez, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que vous, eh bien, a réussi à travailler sur les aspects, des variétés de blé pour pouvoir améliorer cette qualité. C'est bien cela?
Oui, c'est complètement ça. Il y a un gros travail de recherche, de développement. On travaille en partenariat avec les OS, avec des champs d'essais. On fait des essais sur plusieurs années, plusieurs récoltes.
Et donc, vous voyez les choses plusieurs années à l'avance pour pouvoir prévoir différents éléments. Il y a un autre élément que j'aimerais vous indiquer, madame, c'est que, êtes-vous d'accord que, finalement, à la récolte du blé fin août, on a un type de farine que vous proposez à vos boulangers, on va en parler dans quelques secondes, et que, finalement, entre le mois d'août et le mois de janvier, on peut avoir des farines différentes. Et au fond, d'année en année, on peut, nous, consommateurs, avoir un boulanger toujours identique dans notre quartier, mais ce boulanger peut avoir une farine qui peut changer d'une année sur l'autre. Donc au fond, le pain de l'année est issu de la qualité de la farine de l'année.
Alors ça, c'est très intéressant parce que ce qui est passionnant dans notre métier, au niveau de la filière, que ce soit l'agriculteur, le meunier, l'OS ou le boulanger, on travaille une matière qui est vivante. Donc nous-mêmes, en tant que meunier, on doit s'adapter. Un blé qu'on a récolté d'une année sur l'autre n'est pas le même. Donc on a toute une réflexion à faire au niveau du moment de la récolte, mais pas que, parce que quand vous rentrez en période hivernale, aussi plus froid, donc on doit s'adapter également par rapport au climat. Et nos clients, c'est pareil. On échangera tout à l'heure avec un boulanger. Eux-mêmes doivent s'adapter s'il y a un taux d'humidité plus important, si c'est plus sec. Donc c'est vraiment l'art et la manière de travailler des produits qui sont des produits vivants de la terre.
Et oui, François, pour preuve, c'est que quand vous mangez du pain, mesdames et messieurs, oui, vous mangez du blé pur avec de l'eau et des ferments qui permettent finalement par le pointage d'augmenter les réseaux entre protéines et amidons. Mais là-dedans, dans ce blé, il y a des phénols. Donc du coup, ces antioxydants que nous évoquons ensemble, François, depuis une quinzaine d'années, sont apportés par les blés. Alors madame, quand vous apportez des farines aux boulangers, combien de boulangers servez-vous chaque année? De boulangers de quartier? Je dis bien de quartier. Je n'ai pas dit Panamore, hein, j'ai dit des boulangers de quartier.
Alors on a, nous, la chance de travailler quasi exclusivement avec des artisans boulangers. On part du nord de la France jusqu'au sud et on sert à peu près 1300 artisans boulangers.
D'accord. Alors j'ai la chance.
Qui vont faire tous le même pain, enfin qui ont donc la même matière première.
Ah non,
en
non,
fait,
non,
c'est
non,
ça
non, non,
non. Non, mais la matière première.
La matière première, mais toujours des recettes par boulanger, toujours des recettes différentes, c'est bien cela?
Oui, alors tous n'ont pas la même farine parce qu'il existe à peu près une centaine de farines en ce qui nous concerne différentes. Et puis après, pour les artisans boulangers, chacun a sa recette. On fait du travail, il y a tout un accompagnement technique. Le boulanger a sa propre recette avec sa propre farine.
Quand vous dites qu'il y a une centaine de farines différentes, ça veut dire qu'il y a 100 recettes et de qualités de pain différentes aujourd'hui?
Alors après, bon, il y a différentes typologies de farines, mais si on prend par exemple la farine boulangère qui sert à faire la baguette, on va avoir une quinzaine de références. Et sur ces 15 farines boulangères différentes, chaque boulanger va avoir sa propre recette de travail.
D'accord.
Donc c'est lui qui va rajouter plus ou moins de sel, etc., des choses comme ça.
Le sel aujourd'hui est remarquablement maîtrisé depuis 2002 et souvent les boulangers ont réussi depuis une quinzaine d'années à maîtriser ces quantités de sel. C'est surtout, François, la capacité d'avoir des mélanges de blé qui permettent d'avoir un taux de protéines, un taux d'amidon. Moi, j'aime pas la notion de W parce qu'on va pas expliquer ça aujourd'hui, on n'a pas le temps, madame, mais l'idée c'est d'apporter une modernité à et la transparence sur la qualité de production que vous réalisez. Par exemple, François, nous discutions hier avec Madame Forest pour préciser que la production raisonnée de blé est bien plus efficace que la production bio. Qu'en pensez-vous, madame, sur ce sujet?
Oui, c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes très sensibles à la démarche culture raisonnée pour appartenir à la filière CRC. Ce qui est important, en fait, dans cette démarche, c'est de pouvoir co-construire un cahier des charges qui s'inscrit dans une démarche vertueuse avec les agriculteurs, avec les OS. Et c'est vrai qu'il y a un travail qui est remarquable, qui est fait au niveau des agriculteurs sur la variété de blé, sur la manière de travailler le blé, qui est tout à fait intéressante et dans laquelle on se retrouve bien au niveau de la culture raisonnée.
Oui, avec la maîtrise des mycotoxines, la maîtrise absolue du phytosanitaire, où on voit bien qu'on est bien mieux en culture raisonnée qu'en culture bio sur certains produits phytosanitaires.
Juste, j'avais une question. À partir du moment où vous fabriquez cette farine, il faut qu'elle soit consommée, en tout cas travaillée rapidement, ou est-ce que ça peut se conserver longtemps?
Alors, une farine, une fois qu'elle est produite, on va la laisser reposer un petit peu, mais on a une durée, si vous voulez, on peut la conserver pendant 9 mois, la farine. Après, il faut être vigilant sur les conditions de stockage, on va pas la laisser à 40 degrés, mais dans des conditions de stockage normales, la farine se conserve 9 mois.
Christian, qu'est-ce qu'il y a? Alors, cela dit, on va peut-être poser la question à notre invité Franck Debieux, qu'on accueille tout de suite, car
Madame
il nous
reste
Forest avec nous.
Reste avec
bien
nous.
Sûr. Bonjour Franck Debieux.
Bonjour
Christian. Franck, comment bonheur de vous avoir.
Vous êtes boulanger et vous dirigez donc l'établissement L'Étoile du Berger, qui est une boulangerie. Vous êtes basé où?
Alors on est basé sur Sceaux, Meudon, Palaiseau, et puis on a deux magasins sur Paris, un dans le 6e et un dans le 14e.
Parfait. Une baguette c'est quoi en fait? C'est quoi la recette d'une baguette?
C'est une histoire d'homme. C'est déjà une histoire d'homme.
Là, je retrouve Franck. J'ai connu Franck quand j'étais enseignant à l'école centrale de Paris. Alors, dites-nous ce que c'est une baguette, parce que mes étudiants adoraient votre pain.
Non, donc, Ce qui est important dans l'approche d'un pain, c'est de ne pas trop pétrir, de laisser fermenter le produit, de travailler avec des levains. Faut laisser du temps. Nous, par exemple, la flûte du berger, il nous faut à peu près 24 heures pour la faire, quoi. Un Saint-Père qui a un pain qui est pétri à la main, il lui faut 48 heures, quoi. Donc, c'est toute une notion de temps. Pour former un boulanger, il faut à peu près une dizaine d'années.
Ah ouais? Ah oui.
Donc, oui, c'est-à-dire
que... C'est un doctorat. Les gens savent pas, ça.
Ben, on a pas mal échangé avec Christian sur ça. C'est du temps. Ça veut dire que le boulanger, bien sûr, il va travailler avec ses sens, avec son toucher, avec le développer l'odorat, le goût. Il va développer tous ses sens qui vont faire qu'à un moment donné, il va accompagner la réalisation d'une baguette. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on la pétrit pas trop, on lui laisse, je dirais, une bonne fermentation pour Christian parlait tout à l'heure du pointage. Donc, c'est la première fermentation qui va développer les arômes. Mmh. Et derrière, on va aller vers, je dirais, un développement de ferments qui va jouer sur le goût et la conservation. Et puis, la chose essentielle dans une baguette, c'est la fraîcheur. Ça veut dire que nous, à l'Étoile du Berger, on essaye de pas dépasser une heure de rayonnage. C'est très important, je dis souvent.
Il faut plusieurs fournées par jour, histoire d'avoir le pain le plus frais possible pour le consommateur, en fait.
Essentiel. C'est essentiel. La fraîcheur de la baguette. Ouais. C'est le premier critère. Il y a trois critères. Il y a la fraîcheur, le goût, quand on a fait un bon travail sur la fermentation et qu'on n'a pas trop pétri, qu'on n'a pas trop oxydé, la pigmentation du grain de blé, qu'on parlait tout à l'heure. Et je dirais le goût, la conservation. Et puis voilà, c'est vraiment, je dirais, dans une approche en même temps de proximité. On parlait de l'artisan, c'est ça, c'est-à-dire que le fait qu'il fabrique son pain, qu'il laisse de la fermentation, qu'il vive avec son produit, ensuite, je dirais, il va le vendre aux consommateurs de tous les jours de proximité, quoi. Et aujourd'hui, c'est essentiel. On voit l'impact qu'on a. Moi, je trouve la période très difficile, mais je trouve merveilleux ce qu'on vit, c'est que on vend du pain. Les gens achètent du pain, retournent vers des produits de base, et comme on est l'un des derniers commerces de proximité, ils viennent acheter ces produits. Donc vraiment le travail de la fermentation, de la réduction de pétrissage, le travail du levain, c'est un travail d'homme, dans la fabrication.
Vous restez avec nous, on va revenir dans un instant. Et j'aimerais que Christian nous dise aussi si le pain est bon pour la santé. Voilà. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi concernant le pain. Il y a des gens qui disent, oh là là, j'ai perdu 10 kilos parce que j'ai arrêté le pain, par exemple. Enfin voilà, est-ce qu'il faut du pain dans notre alimentation quotidienne? Et puis on aura aussi la question de Jean-Marie, qui se demande si le pain de seigle est un bon pain. Est-ce que c'est bon pour la santé?
On va faire parler Franck Debieux sur ce sujet, et je vais répondre à votre question, François.
A tout de suite, c'est RMC.
RMC jusqu'à 9h. Votre forme. RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, la forme et la santé. On évoque le pain, peut-être êtes-vous en train justement d'apprécier une bonne tartine de pain grillé avec du beurre, de la confiture. Beurre, confiture, ça va, Christian, vous nous autorisez ou...
tout ce que vous aimez, écoutez.
Pain grillé aussi.
Moi, j'adore le matin, deux œufs sur le plat, un bon pain de chez Demezy ou de chez Franck Debieux, avec des mouillettes sur ces œufs, c'est absolument sublime. Et sur les œufs, du poivre, c'est remarquable. Ou le matin, une fine lamelle de saumon fumé, et puis concrètement, du pain et du beurre. Ça, c'est génial.
Oui, c'est vrai. Vous avez bien raison. Je suis d'accord.
Beaucoup mieux que du Nutella sur du pain.
Que du Nutella. Que les céréales que vous appréciez particulièrement.
Absolument. Miel Pops.
Vous allez nous dire si le pain est bon pour la santé.
Oui, pain.
On en a parlé juste avant la pub. Dans une seconde, s'il vous plaît. Auparavant, j'aimerais accueillir Jean-Marie qui est avec nous au 32-16. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour.
Oui, j'ai deux questions à vous poser.
Allez-y.
Alors, la première question, paraît-il que le pain de seigle, c'est le meilleur de tous les pains.
D'accord, bien. Ça c'est votre première question. Quelle était la deuxième?
Alors, la deuxième question, c'est le pain complet qu'on achète chez le boulanger. C'est un pain, disons, vous mangez du poison. Pourquoi vous mangez du poison? Parce que ce pain complet n'a pas été traité, et vous mangez les engrais chimiques et vous mangez en même temps les pesticides.
Eh bien, dites-moi,
Alors que le pain blanc, je ne veux pas dire qu'il est meilleur, mais il a quand même été traité. Et à ce moment-là, vous ne mangez pas les pesticides et les engrais chimiques comme dans le pain complet.
Vous vous y connaissez,
alors,
Jean-Marie, dites-moi.
Complet, à ce moment-là, il faut aller dans un magasin diététique. À ce moment-là, paraît-il, il n'a pas été traité avec des engrais chimiques ou les pesticides.
Eh bien, écoutez, cher ami, je l'ai à peu près pour 9 heures pour répondre à cette question.
Alors, ça va être
fondatrice. Et je sais que François va beaucoup aimer. Alors,
on a 9 minutes,
sur
on n'a pas 9 heures.
On va interviewer Franck.
Interviewons, comme on dit, dans les années 60.
Alors, absolument, interviewons.
Alors, le pain de seigle.
Ouais, alors sur le pain de seigle, bah je dirais que c'est un très bon pain. Nous on le fait avec de l'eau à 80 degrés pour agir sur les gommes. Et on fait une fermentation sur 12 heures. Donc je dirais que c'est un très bon pain. Tous les pains sont bons, mais
voilà.
Non, après ça dépend de toutes les approches. Par exemple sur le complet, nous on n'utilise que des farines bio, c'est-à-dire que toutes les farines avec issue. On utilise des farines qui n'ont eu aucun traitement, quoi.
Ou alors avec des farines issues d'une production raisonnée.
C'est peut-être plus perspicace que moi pour aborder sur les fibres.
Christian,
et sur le complet.
Juste, alors pour compléter la réponse de Franck, le pain de seigle, est-ce que c'est meilleur que les autres pains?
Oui, c'est encore une fois, chaque variété de céréales apporte ses nutriments et son intérêt. Franck a bien précisé, et Madame Forest pourra également le confirmer, c'est qu'au fond le travail des céréales, le travail de la séparation des issues, le travail de la production raisonnée va faire mentir notre ami Jean-Marie qui disait, comme les médecins généralistes disent aujourd'hui, il ne faut pas boire de lait parce que le lait c'est pas bon pour la santé. Ce sont des médecins généralistes qui devraient repasser leur diplôme. Mais concrètement, l'idée c'est quoi? C'est pareil, n'ayez pas comme ça des visions binaires. Le pain c'est bien à condition que les matières premières soient bien travaillées. Et comme Madame Forest le précise, quand on a travaillé en production raisonnée, quand on a travaillé en production également bio, on a des pains de très 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 grande qualité. C'est du 19 sur 20. Je dirais même que les pains qu'on achète issus des farines de ces qualités-là, on est en surqualité. Alors maintenant, réponse à la question, François. Est-ce que le pain est bon pour la santé? Mais bien évidemment que le pain est bon pour la santé. Le pain accompagne un bon saucisson. Le pain accompagne ces excellentes charcuteries de mon ami Daniel Muller.
Mais vaut mieux choisir une baguette, on va dire, qui a été...
issue d'une farine
de qualité.
Et quand vous achetez une baguette, vous savez, à 3 francs 6 sous, à 22 centimes d'euros la baguette dans un magasin d'outre-tombe, concrètement, et que la baguette est très légère en main, et que la baguette elle est morte au bout de 2 heures, elle sort du four, 2 heures après, elle est morte. Il y a des millions de baguettes comme ça qui meurent chaque jour. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, achetons un pain qui est capable de tenir 8, 9, 10, 12 heures, et je peux vous dire que le pain de Pierre de Meusy ou le pain de Franck Debieux, ce sont des pains qui durent 24, 48 heures, et que c'est un bonheur de les réveiller.
Sans doute pas une baguette. Une baguette qui dure 48 heures.
Non, mais je parle du pain. Du pain qui prend 48 heures de pointage. C'est un pain que l'on réveille et que l'on met au chaud. Et le lendemain, il est remarquable. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que le pain contient des protéines. Le pain contient des fibres. Le pain contient des phénols. Les fibres, on en a besoin, et ma foi, de 25 grammes par jour. Eh bien, le pain, quand il est complet ou quand il est de seigle, il peut contenir jusqu'à 5 à 7 grammes de fibres. C'est remarquable.
Quel type de pain? Parce que maintenant on arrive dans une boulangerie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez
des dizaines de variétés de pain.
Vous avez la baguette normale, la baguette tradition, la baguette avec des multicéréales, etc. Est-ce qu'il y a un type de pain qu'il faut privilégier?
Alors,
pour la santé,
d'abord, mesdames et messieurs, quand vous choisissez un boulanger, vous choisissez votre médecin. Vous choisissez votre pharmacien. Quand vous choisissez votre boulanger, quand vous constatez que le pain est sec au bout de 2 heures, n'y allez plus. Quand vous constatez que le pain est crémeux, que c'est aussi bon qu'une brioche, là, il faut commencer à être attentif sur ce pain. Quand le boulanger est capable de parler de sa farine, comme il parle de sa production, là, vous avez un boulanger bien éduqué. Et quand en plus, vous avez, je dirais, vous achetez le pain à 8 heures du matin et qu'à midi, le pain explose, je dirais, de flaveur et de saveur, là, vous avez un pain de très grande qualité. Et quand le soir...
Donc plutôt tradition, la baguette normale,
plutôt tradition. N'allez pas vers des pains ultra sophistiqués, soyez traditionnels. Alors si vous voulez vous faire plaisir un matin avec
parce
des pains ou céréales...
On rajoute des céréales, voilà, des pains avec des graines de courge, des trucs comme ça.
C'est du plaisir, c'est du goût. Moi, je préfère manger un pain de Franck Debieux qu'une bonne brioche. Ou alors, quitte à manger une brioche, allons en Vendée pour manger une bonne tresse. Mais l'idée est de dire que le pain doit être un accompagnateur du repas, mais aussi un accompagnateur des collations pour enfants. Moi, je vois mon petit Vittorio qui a 8 ans, il ne mange aucune pâtisserie. Sa pâtisserie, c'est le pain. J'ai la chance d'avoir un équivalent Franck Debieux à quelques centaines de mètres de chez moi. Il a véritablement compris que le pain est remarquable.
Christian.
Combien de pain? Le volume d'une demi-baguette par jour et pas plus.
Une demi-baguette par jour.
Oui, c'est pas beaucoup plus, si vous voulez. C'est okay. Attention, il y a des grands gourmands avec du fromage, avec, évidemment, quand vous faites
Le pain fait grossir ou pas?
Mais non! Ce qui fait grossir, c'est le sucre, c'est la barre Mars, c'est le soda, c'est le coca, c'est le Nutella.
Mais pourtant, il y a des gens qui disent, j'ai arrêté le pain, j'ai perdu 5 kilos.
Ah, mais oui, mais attendez, c'est très compliqué. Je dirais que pour expertiser quelqu'un sur le plan nutritionnel, quelqu'un qui est légèrement dodu, onctueux, concrètement, c'est pas un mangeur de pain. Généralement, on lui trouve d'autres défauts avant le pain.
D'accord.
Et je dirais même que le pain est un régulateur de la fonction glycémique quand le pain est de qualité. Madame Forest, est-ce que vous avez travaillé sur les quantités de fibres qu'il y a dans les farines chez vous?
Oui, bien sûr, c'est des données très importantes. Hein. On recherche, on est en partenariat avec des laboratoires où on va chercher justement toutes ces dimensions nutritionnelles, santé, parce que c'est très important, je pense, de dire, de faire savoir que quand on consomme du pain, eh bien, on préserve sa santé. Ça, je partage complètement et charge à nous de donner un maximum d'informations aux consommateurs sur ce sujet-là.
Et c'est vrai que, pour revenir à ce que disait Christian, Karine, tout ça est assez opaque. Je vais chez mon boulanger. Mmh. Alors, de temps en temps, j'ai des informations concernant la provenance de la farine, etc. Mais c'est pas systématique. Alors, comment faire? Il faut poser la question au boulanger.
Oui, il faut que le boulanger sache parler de sa farine comme il parle de sa façon de faire le pain. Et les boulangers ne savent pas.
Karine.
Disons qu'on a, au niveau de la filière, véritablement un savoir-faire. Et l'enjeu maintenant, c'est de le faire savoir. Donc, de communiquer, que ce soit l'agriculteur, le meunier, le boulanger, c'est très important qu'on communique auprès du consommateur parce qu'on a de très belles choses à dire. On fait un travail de qualité où il y a des arguments clés au niveau de la santé. Et l'enjeu, c'est effectivement de savoir le communiquer dans les boulangeries auprès des consommateurs.
Alors, Franck, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. Ça fait quelques années qu'on ne se voit plus.
Ouais.
Est-ce que vous faites toujours ces formations de vos collaborateurs sur le pain, c'est la vie, et il y a vraiment un art? Car expliquez-nous en quelques secondes comment une batterie de collaborateurs ayant la même pâte, en travaillant cette pâte avec leurs mains, leurs bras, sortent un pain différent. Comment ça fonctionne tout ça? Comment c'est possible?
Je dirais que automatiquement c'est l'essence de la personne qui va réaliser le pain, quoi. Donc être boulanger, c'est un don. C'est comme quelqu'un qui joue de la musique, c'est comme quelqu'un qui jardine, c'est un don. Donc auprès des collaborateurs qu'on a et qui fabriquent, eh ben on cultive ça avec eux. Ça veut dire qu'on, tout à l'heure on parlait de je dirais essentiellement du levain. C'est quelque chose qui, un boulanger qui rentre à l'Étoile du Berger, on va lui donner une souche de levain, on va lui donner de la farine, et puis pendant 15 jours il va la cultiver, il va l'entretenir, il va la faire vivre. C'est-à-dire qu'il va rentrer en rapport avec lui, ce qui veut que derrière il va construire, je dirais, son pain comme il va se construire en tant qu'homme. Donc il y a une vraie relation.
D'accord.
Très forte, je dirais, du boulanger avec la matière, quoi.
Franck Debieux, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions.
Merci, Karine Forest.
C'est un sujet passionnant.
Merci infiniment.
Merci, Christian.
À bientôt, merci.
On est dans un instant, la vie numérique. Raphaël Gravier là. Bonjour, Raphaël.
Salut à tous, salut François.
Qui est dans un instant, vie numérique, après la météo et les infos. À tout de suite.